Alors, la petite Léa est au parc avec sa maman Evelyne. Et elle est en train de jouer, elle est en train de s'amuser à l'ombre des platanes. C'est une très belle journée. Et comme Léa est une enfant sage, Evelyne, elle a pris un bon bouquin, elle s'est assise sur un banc et elle est en train de lire un bon livre. Et voilà que tout d'un coup, elle est sortie de sa lecture par Léa qui pleure. Parce qu'elle vient de trébucher et elle est tombée. Elle a chuté. Et donc Evelyne lève les yeux de son livre, elle regarde et puis elle voit que ça va, c'est pas trop grave. Alors elle appelle sa petite. Ben, relève-toi Léa, viens voir ta maman. Et Léa se relève, c'est sûr, elle pleurniche. Mais elle arrive près de sa maman et sa maman lui tapote les mains pour enlever la poussière, lui tapote les genoux pour faire tomber aussi la poussière de son pantalon. Ça va mieux, tu vas bien? Oui, ça va. Et puis, toute contente, après un bon bisou bien serré et un câlin, Léa repart pour jouer sur le toboggan, sur la balançoire, sur tous les jeux qui sont là à disposition dans ce beau parc. On a souvent l'habitude de parler de Genèse 3 comme de la chute. Mais c'est pas la même chute que Léa, parce que Léa, elle a pu se relever par elle-même de cette chute-là. Mais le texte de Genèse 3 nous parle d'une chute dont personne ici ne pourrait se relever par lui-même. Et je vous invite donc à lire avec moi Genèse au chapitre 3. Et en fait, on va prendre juste le dernier verset du chapitre 2 qui fait un peu transition avec notre passage ce matin. Donc Genèse 2, 25 en fait, même si l'essentiel de ce matin va porter sur Genèse 3. Vous rappelez, l'homme et la femme sont dans le jardin. Ils bénéficient des bénédictions à profusion que Dieu donne. Et Dieu a scellé son alliance avec lui. Et il a scellé aussi l'alliance du mariage pour sécuriser les relations entre l'homme et la femme. Et puis on lit au chapitre 2, verset 25. Ils étaient tous les deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient pas honte. Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon... vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, Dieu le sait. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. » La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était cet arbre désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. Alors ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu appela l'homme. Il lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'étais entendu dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Je me suis donc caché. » Il reprit, « Qui t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « C'est le serpent qui m'a trompé, et j'ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et tous les animaux de la campagne. Tu te déplaceras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » À la femme, il dit « Je multiplierai la peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu mettras des fils au monde. Ton désir se portera vers ton mari et lui, il te dominera. » À l'homme, il dit « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, la terre sera maudite à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Elle fera pousser pour toi des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » L'homme appela sa femme du nom d'Ève, vivante, car elle est devenue la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. Le Seigneur Dieu dit « L'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Que maintenant il ne tende pas la main pour prendre aussi de l'arbre de la vie, en manger et vivre toujours. » Le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Après avoir chassé l'homme, il posta à l'est du jardin d'Éden les kéroubim et l'épée flamboyante qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Priez encore si vous voulez. Père Céleste, ce texte est vraiment une gravité extrême, on s'en rend compte. Il y a beaucoup de profondeur dans ce qui est dit ici. On a conscience que ça a des répercussions énormes sur notre vie jusqu'à aujourd'hui. Notre vie, celle qu'on vit ici au XXIe siècle, à Cavaillon et dans sa région. Même nous, chrétiens, même nous qui avons lu le reste de la Bible, qui avons confiance en Jésus-Christ, nous tremblons encore en lisant ce texte. Et Seigneur, nous te prions que en cet instant même, tu nous donnes, Seigneur, de comprendre ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden et comment ça rejaillit encore sur notre vie. Que, Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, de ne pas résister à ta parole, mais de l'accepter et de tourner nos regards vers toi avec espérance que tu peux, Seigneur, toi, nous relever de cette chute terrible. Et c'est avec cette espérance et avec cette confiance dans la certitude de tes paroles que nous te prions ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà la source du péché dans notre vie. C'est la volonté de vivre en dehors de l'alliance, en dehors de la relation avec Dieu. La volonté de vivre indépendamment de Dieu. On a terminé le chapitre 2 avec cette situation magnifique où l'homme et la femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Cette nudité concerne le fait qu'à ce stade dans la création, Adam et Ève n'ont pas d'habit. Ils sont nus, physiquement nus. Mais on vient de lire que par la suite, ce n'est plus le cas. Mais le fait que l'homme et la femme n'éprouvent pas de honte dans cette situation, c'est ça que Moïse nous dit. Il nous indique qu'il faut comprendre leur nudité aussi comme ayant une connotation morale. Donc Adam et Ève sont nus, c'est-à-dire ils ne sont pas coupables. Ils n'ont rien à se reprocher, personne ne leur reproche rien. Ils sont libres de toute culpabilité, de toute honte entre eux et vis-à-vis de Dieu. Et c'est dans ce contexte qu'on voit le serpent s'approcher de la femme, le tentateur. Verset 1, « Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. » Quelques remarques peut-être pour commencer sur le serpent. Peut-être que vous vous posez la question de la présence dans le jardin d'Éden, le lieu parfait de Dieu, d'un serpent qui parle. De toute évidence, un être est à l'œuvre derrière ce serpent. Même si le texte est discret sur son identité à ce stade-ci, mais le reste de la révélation biblique, notamment l'apôtre Jean dans Apocalypse 12, verset 9, nous parle du serpent d'autrefois, celui qui est appelé le diable, le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Mais l'accent du texte, et il ne faut pas qu'on se dérobe à ça, porte sur l'homme et sur la femme d'abord, les deux êtres créés à l'image de Dieu. L'accent porte sur leurs responsabilités, leurs décisions et leurs conséquences de leur acte pour l'humanité. D'ailleurs, tout le reste de la révélation biblique concerne l'histoire du salut d'hommes et de femmes. La Bible ne dit pas grand-chose sur les anges et les démons. Elle s'en soucie juste ce qu'il faut. De même d'ailleurs pour les plantes et pour les animaux. Mais par contre, elle nous révèle énormément de choses sur Dieu et sur la relation qu'il désire avec les êtres humains, hommes et femmes, et comment les êtres humains doivent être en relation avec lui et les uns avec les autres. Alors il est possible qu'on reste un peu sur notre faim, sur certaines questions. Pourquoi le mal? Pourquoi le diable est-il là, en Éden? Quand est-ce qu'il s'est rebellé contre Dieu? Pour quelle raison? La Bible ne fournit pas des réponses exhaustives à ces questions. Le théologien Henri Blocher appelle cela le mystère opaque. On peut aller jusqu'à un certain point en lisant la Bible, mais on n'a pas toutes les réponses. On peut malheureusement aussi raconter beaucoup d'âneries en sortant du texte biblique et en essayant d'échafauder toutes sortes d'hypothèses et de systèmes. Nous ne sommes pas en sécurité dès qu'on sort des balises de la parole de Dieu. Et donc je vous encourage à ne pas le faire. Voici cependant une certitude que nous pouvons tirer à partir du texte même. Le serpent n'est qu'une créature. Le diable qui se cache derrière lui aussi. Il n'y a qu'un seul Dieu, on vient encore de le lire, l'Éternel règne. Le seul Dieu, le Dieu créateur, qui est aussi le Dieu qui fait alliance avec sa création, avec l'homme et la femme. L'homme et la femme, comme le reste de la création, comme le diable, sont soumis à l'autorité ultime du Seigneur Dieu. Souvenons-nous-en au moment où le tentateur s'approche de nous. Parce qu'il veut s'approcher. Il veut nous tenter. Quand le serpent veut nous tenter, il cherche en fait à se placer comme une alternative à Dieu. La Bible nous dit ici, il est avisé ou il est rusé, je ne sais pas quelle est votre traduction, il est malin. Il y a un jeu de mots d'ailleurs avec en hébreu, bref, passons. Mais on voit dans le verset 1, il est avisé dans le sens de celui qui a une certaine forme de sagesse. Mais toute sagesse n'est pas bonne. Il est une sagesse qui ne vient pas d'en haut, mais qui est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. Excusez-moi. Une sagesse qui est démoniaque, nous dit Jacques, chapitre 3, verset 15. Voyez aussi au début du livre des Proverbes, l'appel de la sagesse, concurrencé, singé par l'appel de la folie. Sagesse et folie. Deux voies, deux chemins. L'un qui mène à la vie et l'autre qui mène à la mort. Et ici, toujours au verset 1, le serpent dit, Dieu a-t-il réellement dit? Le serpent parle. Il cherche à imposer une autre parole que celle de Dieu, la sienne. Il commence par mettre en doute la parole de Dieu. Il fait le surpris. Comment ? Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Son exclamation est volontairement ambiguë. La même phrase peut vouloir dire « Ah bon ? Dieu vous a interdit de manger de tous les arbres du jardin ?» Ou bien ça peut vouloir dire « Ah bon, Dieu vous a imposé des restrictions ? » En fait, le diable est en train de semer la confusion dans l'esprit de la femme. Dieu vous aime-t-il ? Il exagère l'interdit de Dieu et il occulte toutes les bénédictions qu'on a vues déjà dans Genèse 1 et 2. Pourquoi sa parole est-elle si restrictive ? Il est en train de dire ça. Est-ce que tu es sûr que Dieu te veut du bien ? Et vous savez quoi? Le diable utilise les mêmes modes opératoires aujourd'hui. Il n'est pas dans des grands prodiges extraordinaires, mais jour après jour, dans les petites choses de notre quotidien, dans les petites comme dans les grandes décisions de notre vie, il est en train de distiller son venin. Tu n'as pas besoin de vivre sous l'autorité d'un Dieu qui ne t'aime pas. C'est ça qu'il répète sans cesse à nos oreilles. On a vu dans Genèse 1 et 2 que tout ce que Dieu fait est bon pour le bien de l'homme et de la femme. Quand la gloire de Dieu est mise en avant, alors l'homme et la femme, créés à l'image de Dieu, sont eux aussi glorifiés et satisfaits et comblés. Et la femme, à ce stade-ci, elle répond correctement, n'est-ce pas? Elle rétablit la vérité, elle réaffirme la parole de Dieu, elle se solidarise avec Dieu et sa parole. Et devant la persévérance de la femme à mettre la parole de Dieu en premier dans sa vie, le diable en vient maintenant à un mensonge direct. D'abord, il accuse. Dieu lui-même est un menteur. Vous voyez comment il affirme cela au verset 4 ? Mais pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! Il est en porte-à-faux complet avec la parole de Dieu. Il contredit de manière flagrante ce que Dieu a dit. Puis, il accuse Dieu de cacher des choses. Dieu le sait. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. Il avait déjà accusé Dieu d'avoir une volonté trop restrictive. Maintenant, il dit avec fausseté que Dieu n'a pas des motivations pures, qu'il est en train de brimer les êtres humains, qu'il leur cache des choses qui pourraient être bonnes pour eux. Il est en train de répéter, « Dieu ne vous aime pas. Dieu ne vous aime pas. » Et vous devriez être de ceux qui peuvent décider, définir pour vous-même, indépendamment de Dieu, de ce qui est bon ou mauvais. Vous seriez comme des dieux. Vous voyez comme c'est pervers de dire ça à des êtres qui sont à l'image de Dieu. Le diable est en train de dire, sortez de l'alliance, de la relation sécurisée avec Dieu. Il n'y a rien à craindre. En fait, vous vous sentirez même mieux. Vous pouvez être vos propres maîtres. La tentation est donc fondamentalement malveillante. Elle cherche à détruire. Elle est toujours un mensonge qui cherche à s'opposer à la vérité de la parole de Dieu. Le tentateur, et depuis Genèse 3, notre propre nature pécheresse, nous font croire que Dieu ne nous aime pas, qu'il n'est pas bon pour nous, et que nous nous en sortirions mieux sans lui. Et cette idée fait son chemin chez la femme. Et verset 6, coup de tonnerre. Cette pensée conduit à la désobéissance. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était cet arbre. Et l'auteur insiste sur cet arbre, par opposition à l'arbre de la vie qui est aussi au milieu du jardin, et pour lequel il n'y avait pas de restriction de la part de Dieu, n'est-ce pas? Il y avait seulement un seul arbre qu'il était interdit de toucher, l'arbre de la connaissance de Dieu, ce qui est bon ou mauvais, mais l'arbre de la vie. Il était là au milieu du jardin, accessible. Comme on l'a vu la semaine dernière, ce qui donne la vie, c'est la sagesse qui vient de Dieu, qui est acquise et vécue dans la relation avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui restaure, qui guérit, qui donne la vie de l'être. Et donc c'est dans la communion avec lui, dans la communication avec lui, que la vie nous est communiquée. Mais ce n'est pas vers cet arbre-là que l'attention de la femme a été attirée par le serpent. Donc, la femme voit que le fruit est bon. Elle voit ce qui est bon, mais sa vision n'est plus celle de Dieu. Jusqu'ici, c'est lui qui, en regardant la création, pouvait dire « Je vois, et c'est très bien. » Mais le poison de la tentation a commencé à agir chez la femme. Sa vision, sa décision s'appuie sur des valeurs pratiques, utilitaristes, si vous voulez. Il doit être bon à manger. Ou des valeurs esthétiques, d'apparence, de façade. Oh, il est beau. Et puis, désirable pour le discernement, ce désir d'autonomie vis-à-vis de Dieu. Et elle prend du fruit. Et elle mange. En faisant cela, la femme fait alliance avec le diable, car elle met sa confiance dans ses paroles à lui. Elle en donne à son mari et il en mange. Lui aussi devient un rebelle. Il a toutes les raisons de faire confiance à Dieu, d'apprécier la bonté de Dieu et de lui obéir en retour. Mais il choisit lui aussi, l'homme, la voie de la désobéissance contre Dieu. Pensant se libérer de la tutelle de Dieu pour la liberté absolue, l'homme et la femme tombent en réalité dans l'esclavage du diable et de ses paroles mensongères. Chercher la sagesse de ce qui est bon en dehors de Dieu conduit à une rébellion, conduit nécessairement à une transgression, à un acte, une révolte en acte. Et à quelle vitesse, remarquez ça. Quand la tentation arrive, tu n'as que quelques secondes pour lui tourner le dos. Je dirais pas plus que 5 secondes. Avant une décision, avant un passage à l'acte, il y a quelques secondes qui sont cruciales. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas faire confiance malgré tout à Dieu, à sa parole, ou penser que tu sauras mieux tout seul, sans lui, et agir mal? Et voilà la conséquence, la mort relationnelle et spirituelle. Le péché d'Adam et Ève est plus que juste enfreindre une loi de Dieu, ou c'est plus qu'un acte de méchanceté. C'est un style de vie qui rejette l'autorité de Dieu, qui veut prendre sa place en fait. Être soi-même Dieu. La désobéissance d'Adam et de sa femme ont des conséquences immédiates. Vous voyez ça? Et tout d'un coup, ils réalisent qu'ils sont nus, qu'ils sont coupables. Tout d'un coup, ils ont honte, ils se cachent. Le premier réflexe, c'est celui de tout pécheur. Chercher à couvrir par ses propres moyens la honte et cacher sa culpabilité. Et donc verset 7, Adam et Ève et sa femme cousent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes, et ils se cachent, verset 8, pour ne pas être vus. Tentative inutile, car rien n'est caché à Dieu. Le jardin était le lieu de la présence de Dieu, de la proximité avec Dieu, l'endroit parfait où rencontrer Dieu. Mais la révolte, le renversement de l'ordre créationnel conduisent immédiatement à une rupture de la relation avec Dieu. Adam et sa femme sont coupables maintenant devant Dieu et leur conscience leur reproche déjà leur faute. La culpabilité et la honte conduisent à la peur. Il n'y a plus de confiance de l'homme envers Dieu et Dieu est en colère contre ses enfants rebelles. La mort donc annoncée par Dieu est bel et bien là, et elle est d'abord une mort spirituelle. Alors on arrive au verset 9 à 19. Ce n'est pas tout à fait la fin de l'histoire. On pourrait s'attendre à ce que Dieu, de son pouce, écrase l'homme et la femme, et puis fini. Retour au néant. Mais c'est pas ça qu'on voit. Car Dieu appelle l'homme et lui pose un certain nombre de questions. Dieu a tout vu, il sait tout. Dieu pose des questions non pas pour avoir des réponses, mais parce qu'il veut avoir la réponse des hommes. Parce qu'il a élevé en dignité l'être humain en lui confiant des responsabilités. Et donc comme un être responsable, Dieu pose des questions pour que l'être humain s'exprime devant lui. La grande question, c'est comment est-ce que Adam et sa femme vont prendre leurs responsabilités? C'est ce que les versets 9 à 13 nous montrent, et c'est affligeant. Excusez-moi. Le péché, à peine entré dans le monde, dans les relations de couple et avec Dieu, est déjà à l'œuvre, nocif, écœurant. Dès le départ, Satan s'est attaqué aux deux relations sécurisées par les alliances de Genèse 2. Il s'adresse à la femme en contournant l'autorité de son mari. Dès le départ, le diable est celui qui cherche à saper l'alliance du mariage, autant que l'alliance avec Dieu. La première devant refléter la deuxième. Dès le départ, le diable cherche à plonger le monde dans le désordre et dans le chaos. Mais Dieu restaure l'ordre créationnel. Bien que tout ait pour point de départ la tentation du diable, bien que ce soit la femme qui la première a désobéi, Dieu appelle qui ? Il appelle l'homme. Et il lui demande, où es-tu ? C'est important pour nous de noter qu'Adam avait tenu son rôle vis-à-vis de son épouse jusque-là. Dans Genèse 2, 16, 17, Dieu scelle son alliance avec l'humanité en s'adressant à l'homme. Il lui donne la liberté de jouir de tous les arbres du jardin et de toutes ses bénédictions. Il lui ordonne de respecter une seule restriction, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Lorsque Dieu dit cela, la femme n'a pas encore été créée. Mais avant la chute, l'homme avait parfaitement tenu son rôle d'initiateur, de meneur, de bon leader, de bon chef, de bon mari. Il avait donc instruit sa femme sur la parole de Dieu. Et on l'a vu, ça lui a permis de répondre, d'ailleurs, dans un premier temps, correctement au diable. Mais maintenant que Dieu demande à chacun de prendre ses responsabilités, de reconnaître sa faute, aucun n'est à la hauteur. L'homme fuit sa responsabilité en la rejetant sur la femme et il accuse Dieu. Verset 12, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. De même, la femme rejette la responsabilité sur le serpent. C'est le serpent, verset 13. En fait, l'homme et la femme montrent par là même, par leur propre réponse, que leur allégeance à Satan a bien commencé. Ils se mettent à agir à l'image de leur nouveau chef. Les voilà qui usent de demi-vérité à leur tour, qui s'accusent mutuellement, qui sont en train d'affirmer à Dieu « Tu ne nous aimes pas ». Ils cherchent à décider indépendamment de Dieu, de ce qui est bien ou mauvais. Ils sont prêts à accuser Dieu pour cela. Ce que tu as fait, franchement, c'était nul. Ce que le diable a commencé à détruire, le mariage. L'homme est maintenant en train d'enfoncer lui-même le clou, de se mettre lui aussi en train de détruire tout Genèse 2 et toutes les grandes bénédictions de Dieu. S'il le pouvait, il chercherait même à détruire Dieu. Terrible, n'est-ce pas ? Mais on voit Dieu rétablir malgré tout l'ordre créationnel. Mais le péché subsiste, il est entré dans le monde, le mal est fait, il semble irréversible même. Et c'est donc en parfaite justice que Dieu punit le serpent, la femme et l'homme, chacun en son rang respectif. Et on se rend vite compte que la sentence qui est prononcée contre les uns et les autres va au-delà de ces personnes individuelles. Les trois sont présentés comme les chefs de leur race respective, si vous comprenez cette expression, j'espère. Le royaume du mal conduit par Satan et l'humanité de l'autre côté, hommes et femmes. Et un combat va s'engager dans l'humanité. Il y aura l'hostilité, verset 15, entre la descendance du serpent, tous ceux qui lui font allégeance, qui le suivent, et la descendance de la femme. À ce stade-ci, on ne sait pas encore trop qu'est-ce que ça veut dire exactement. Tous les enfants qui vont naître d'Ève, il faut venir dans 15 jours pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans Genèse 4. On verra dans les prochains chapitres que ça concerne une partie de l'humanité. En fait, il y a une partie de l'humanité qui va se comporter comme des dieux, selon la fausse promesse du serpent, vous serez comme des dieux, et une autre partie de l'humanité qui va être restaurée de nouveau à l'image de Dieu. J'ai déjà fait ressortir ça la semaine dernière avec l'expression qu'on trouve en Genèse 2, 4, et en 5, 1, et en 6, 8. Voilà la vision de l'histoire de l'auteur du Pentateuque. Le passé conditionne le présent. Et le passé et le présent ensemble conditionnent l'avenir. Et donc la question nous est posée, de quel chef est-ce que nous allons dépendre, ici nous, à Cavaillon ? Qui est notre père ? Qui est notre ancêtre ? Naturellement, nous sommes tous, dès notre conception, dans le camp des ennemis de Dieu. Il y a une illustration qu'on utilise régulièrement en théologie pour parler de ça, c'est deux états qui se font la guerre. C'est le président de la République française, par exemple, qui va signer que, voilà, on déclare la guerre à la reine d'Angleterre, par exemple. Mais c'est tous les Français qui deviennent, du coup, du jour au lendemain, les ennemis de tous les Anglais, de tous les sujets du royaume britannique. C'est leurs chefs qui ont décidé la guerre. Ce sont tous les Français qui, dans un sens, ont contribué à faire qu'il y a cette guerre-là qui vienne. Mais qu'ils le veuillent ou non, du fait qu'il y a cette guerre, ils sont dans un camp ou dans un autre. Et tous les sujets britanniques deviennent des ennemis. Et les Français deviendraient des cibles de tous les sujets britanniques, du jour au lendemain, par cette déclaration de guerre. Et c'est ce qui se passe ici, avec Adam et Ève. Ils ont signé la guerre, en notre nom, si vous voulez, contre Dieu. Mais pour le serpent, c'est-à-dire le diable et son royaume, la ruine est déjà annoncée. Dieu annonce la défaite totale du mal et de son chef dès le départ. Il va manger la poussière tous les jours de sa vie. Verset 14. Lui et sa descendance, lui et tous ceux qui le suivent. Est-ce que le diable et son royaume va tenter de se battre malgré tout? Oh oui. Et on est tous bien placés pour le savoir. Oh oui, il va essayer. Il va pas laisser tomber comme ça. Est-ce qu'à un quelconque point de l'histoire, il va être en mesure de lancer un véritable défi à Dieu, de le menacer sérieusement, de menacer sérieusement le plan de Dieu au point de pouvoir empêcher le plan de Dieu de se réaliser? Oh non. Oh non. Ni Caïn, ni Babel, ni les jalousies dans les familles des patriarches, ni le Pharaon, et vous continuez le Pentateuque, et vous continuez tout le reste de l'histoire du salut, l'histoire de la Bible. Rien de tout cela n'a été une victoire au final. Mais ceci dit, il y aura hostilité constante entre le diable et sa descendance, entre son royaume et la descendance issue d'Ève. Le mot descendance a deux sens, un représentant de cette descendance, sa descendance, une personne individuelle, mais c'est aussi tous les individus de cette descendance rattachés à ce chef-là. En tout cas, à partir de Genèse 3, il y a donc deux lignées, si vous avez bien compris ce que j'essaie de vous dire, et deux seulement dans le monde. Une lignée juste, une lignée impie. Et c'est le diable, chef de la lignée impie, et toute sa descendance, qui aura la tête écrasée, et tous ceux qui l'auront suivi dans sa rébellion. Donc le drame qui s'est joué en Genèse 3 a des répercussions immenses jusqu'à aujourd'hui. Genèse 3 explique toute la suite du récit. Et ce chapitre est fondamental pour comprendre notre vie et ce qui se passe dans notre vie et dans le monde aujourd'hui. On comprend alors pourquoi la question des descendants devient une question de premier plan. On comprend pourquoi la stérilité est une question grave dans l'Ancien Testament. On comprend pourquoi il y a toutes ces généalogies jusqu'au début même du Nouveau Testament. Voilà pour la punition du serpent. Pour la femme, Dieu va multiplier la peine lors de ses grossesses. C'est rapport avec Genèse 1, 28, où Dieu avait dit à l'homme et la femme, « Multipliez-vous, faites fructifier la terre. » Ben maintenant, cela va devenir difficile. Mais chaque naissance va rappeler en même temps la douleur de vivre dans un monde marqué par le péché, la futilité du monde tel qu'il est maintenant, marqué par le péché. Et en même temps, ça va créer un sentiment d'attente, de délivrance à venir. De même, les relations dans le mariage, chapitre 2, versets 18 et 21-25, vont être altérées par le péché. La femme va vouloir dominer son mari, prendre le dessus sur lui. Mais rappelez-vous, Éphésiens 5, revêtir l'être nouveau créé selon Dieu dans le mariage consistera plutôt pour la femme alors à se soumettre volontairement, joyeusement, de respecter son mari, d'être l'aide prévue par son mari, prévue par Dieu pour son mari plutôt. De même, les maris vont dominer, mais maintenant ce sera de manière, à la manière forte, de manière un peu tyrannique. Mais Marie, rappelez-vous, Éphésiens 5, vous allez mener votre femme à la manière du Christ, en aimant de manière sacrificielle. Si le mariage est perturbé, les relations homme-femme dans la société vont aussi l'être. Notez bien que l'approche complémentaire qui est décrite ici n'est pas un effet de la chute, mais cette belle complémentarité bonne, voulue par Dieu, va devenir difficile à vivre à cause du péché. Cependant, attention, ce serait pire de vouloir changer le modèle comme nos sociétés occidentales sont malheureusement en train de le faire, cherchant de manière présomptueuse à définir ce qui est bon ou mauvais pour ce qui concerne l'homme et la femme, indépendamment de ce que Dieu dit de sa parole. Quand Dieu s'adresse à l'homme, c'est pour maudire la terre. Le travail qui est un don de Dieu avant la chute va maintenant devenir difficile et pénible, rébarbatif. La vie de l'homme est soumise à la futilité, à la vanité. Ça ne sert à rien, dans un sens. Il avait été façonné de poussière en Genèse 2, mais il avait reçu le souffle de la vie dans ses narines. Maintenant, ce souffle de vie lui est enlevé, et l'homme reviendra donc à la poussière d'où il a été tiré. Et la mort physique fait donc son entrée dans le monde avec le péché. Mais il y a une malédiction encore pire que tout ça. La malédiction ultime, si vous voulez. C'est l'exil, loin de Dieu. C'est ma troisième partie, ma dernière, elle est un peu plus courte, rassurez-vous. On est dans les versets 20 à 24. La malédiction la plus terrible se trouve dans ces versets. Adam et Ève sont chassés du jardin, de la présence même de Dieu, loin du repos. Vous vous rappelez, ce repos, c'est de jouir d'une relation parfaite avec Dieu, dans le monde parfait de Dieu, en étant soi-même parfait. Mais cela n'est plus accessible dans le sens absolu de Genèse 3. Dans le sens absolu, pardon, depuis Genèse 3. Adam peut appeler sa femme Ève, ce qui signifie vivante, mais il est chassé du jardin pour aller cultiver la terre. Et les kéroubim, les anges, gardent maintenant le chemin de l'arbre de la vie, pour pas qu'on puisse y venir. On est entre joie et tristesse absolue. Ève vivante, oui, on s'accroche à cette promesse, il y aura une descendance, donc il faut bien qu'Ève soit la mère des vivants qui vont continuer à venir. Mais en même temps, quelle futilité. Ils vont naître venus de la poussière, ils vont retourner à la poussière. Et on n'a pas accès à l'arbre de vie, il est gardé par l'épée flamboyante. Donc la trahison en ce qui concerne l'arbre auquel Adam et Ève ont goûté, cette rupture de l'alliance avec Dieu conduit à des malédictions terribles, notamment en ce qui concerne le rapport avec Dieu lui-même. Mais ce n'est pas sans espérance. On l'a déjà vu au verset 15. Et puis d'autres indices aussi dans le passage nous indiquent cela. On l'a déjà dit aussi, Adam et Ève ne meurent pas physiquement instantanément au moment où ils mangent le fruit. Dieu continue de chercher l'homme. Adam, où es-tu? Et on voit Dieu rétablir l'ordre créationnel dans le désordre que le péché avait semé dans le monde. Mais c'est vrai, le péché va continuer de marquer ce monde et de maudire les relations entre les êtres humains et Dieu. Et un dernier indice peut-être, au chapitre 3, donc verset 21. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. Vous voyez, au début ils étaient nus, ils n'en avaient pas honte. Puis ils se rendent coupables, ils sont coupables et ils ont honte. C'est normal parce qu'ils ont réellement fait quelque chose qui est en dehors du cadre, en dehors de la loi de Dieu. Ils essayent de se couvrir par eux-mêmes en faisant avec des feuilles de figues, des pagnes. Mais cette solution-là qui vient de l'homme, initiée par l'homme, n'est jamais bonne. Elle ne va rien produire. Elle ne couvre pas correctement l'homme devant Dieu. Et Dieu donc se charge lui-même, prend l'initiative de recouvrir la nudité, la culpabilité de l'homme et de la femme avec des habits en peau de bête. On n'est qu'au troisième chapitre, il y a encore tout le reste du Pentateuque, mais vu que c'est le même auteur qui va écrire après Lévitique, etc., où les sacrifices d'animaux ont une grande place justement pour ôter cette culpabilité. Peut-être qu'il est en train de nous donner un indice que oui, il y a peut-être la possibilité d'un sacrifice substitutif, un sacrifice à la place de ceux qui devaient mourir. Peut-être que ça pourra avoir lieu. Mais il faut continuer de lire, il faut continuer de parcourir Genèse et tout le Pentateuque. Laissez-moi conclure. Devant une telle situation, je crois qu'on doit véritablement ressentir du dégoût, comprendre notre folie et ses conséquences. Et sans rien en main que notre culpabilité et notre honte, revenir au Seigneur, revenir au Seigneur Dieu. Pourquoi à lui ? Est-ce que c'est pas lui qui nous condamne, qui nous a punis ? Nous avons peur de lui maintenant, et nous avons honte. On ne peut pas retourner à lui. Peut-être on a ces pensées-là, mais pensez à ceci. À qui d'autre est-ce que vous voudriez aller ? À qui d'autre est-ce que nous voudrions aller ? D'abord, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Il n'y a pas un autre monde que ce monde. Même les mondes virtuels, les jeux sur Internet, les mondes de la drogue ou de l'alcool ne sont pas des mondes réels qui perdurent. Chercher à se construire une vie confortable dans la richesse d'une belle maison en Provence où le soleil brille les trois quarts de l'année, ou alors en haut d'une tour du quartier de la Défense à Paris, comme si on était inatteignable à toutes ces souffrances, et inutile, et vain, et futile. Ces mondes-là n'existent pas, et on est toujours amené à ce monde-ci, mais encore plus honteux et coupable de n'avoir pas cherché le secours de Dieu. Le serpent, ça pourrait être une possibilité, puisqu'on a tout flingué, alors allons-y carrément. Lui, il ne nous a jamais aimés. Il ne nous a jamais aidés. Il est menteur depuis le commencement. Il nous a toujours trompés. Il a toujours cherché à nous détruire. Et chercher en lui un hypothétique secours serait la pire des choses à faire. Troisièmement, peut-être, l'être humain. Allez, mettons-nous ensemble, on va s'améliorer, on va faire que ça va mieux. Mais l'être humain est marqué définitivement par le péché. Les relations harmonieuses prévues par Dieu entre l'homme et Dieu, dans le couple devant Dieu et dans la famille devant Dieu, tout a été déchiqueté, maltraité, brisé, empoisonné par le péché. Et le monde maintenant est soumis à la futilité. Il n'y a pas d'espoir dans l'humanisme, il n'y a pas d'espoir dans l'écologie, ni dans aucune forme d'organisation initiée par l'homme. Essayer de coudre des feuilles de figuier, ça serait ridicule. Les religions, donc, comme système humain qui ne suivent pas la parole de Dieu, le bouddhisme, soyons zen, les amis, l'islam ou les témoins de Jéhovah avec leur rigueur morale, le christianisme, dès qu'il s'écarte de la parole de Dieu pour préférer ses traditions ou pour glorifier l'homme, dès qu'on compte sur nos propres efforts pour réparer le gâchis, on va faire qu'empirer les choses en réalité. Toutes ces solutions-là sont sans espoir. Devant une telle situation, nous devons être écœurés, comprendre notre folie et ses conséquences, reconnaître l'état lamentable dans lequel nous nous sommes mis nous-mêmes, et sans rien en main que notre culpabilité et notre honte, revenir au Seigneur Dieu en pleurant. S'il y en a un seul qui peut quelque chose, n'est-ce pas lui ? Que va-t-il décider ? Y aura-t-il une solution au problème du péché ? Notre culpabilité et notre honte peuvent-ils être ôtés ? Je veux dire, réellement ôtés, pour toujours. Notre faute peut-elle être effacée ? Comment le problème du péché va-t-il être résolu ? qui est cette descendance de la femme qui va venir écraser le diable? Et sa victoire sur le diable, est-ce qu'elle pourra être notre victoire aussi à nous? Rendez-vous dans la suite de cette série, parce qu'il faut continuer de lire. Mais ce que nous cherchons, ce n'est pas les bénédictions de Dieu, donc. Ce n'est pas que Dieu nous donne à nouveau la joie et la prospérité et des relations agréables entre nous. Ce que nous cherchons, c'est Dieu lui-même. Et en découvrant, en retrouvant Dieu lui-même, nous allons retrouver toutes ces bénédictions que Dieu a en réserve encore pour nous. Donc courage et rendez-vous bientôt. Amen.